ça vous dit d'aller boire un verre?
Non, on écoute, vous êtes libre ce soir.
Bonjour et bienvenue sur Vous êtes libre ce soir, l'émission de la culture libre et également du logiciel libre sur Radio Béton 93.6. Aujourd'hui, nous parlons tout d'abord de LibreOffice. Il s'agit d'un projet de logiciel libre qui serait basé sur OpenOffice.
Alors LibreOffice, c'est pas totalement nouveau en fait. C'est ce qu'on appelle un fork de OpenOffice. Alors on va vous expliquer ce que c'est qu'un fork. On va aussi vous expliquer pourquoi il y a eu ce fork. Alors Emmanuel, peut-être tu peux expliquer ce que c'est un fork. Fourchette.
Oui. Ça s'inspire de la métaphore de la fourchette, c'est-à-dire qu'on va reprendre dans le monde du logiciel libre une application existante et la faire évoluer d'une manière différente. Parce qu'il faut dire que OpenOffice, c'était un logiciel qui a été libéré il y a 10 ans par une entreprise qui s'appelle Sun Microsystems. Et cette entreprise a continué pendant 10 ans de développer et de distribuer OpenOffice, qui d'ailleurs a été assez bien adopté. On estime que la part de marché d'OpenOffice dans le monde doit être environ 20% du marché des suites bureautiques. Et donc, par exemple, il y a pas mal d'administrations françaises ou la gendarmerie, l'armée, qui se sont mises à utiliser OpenOffice en lieu et place du bien connu Microsoft Office. Sauf que récemment, l'entreprise qui supportait OpenOffice a été rachetée.
A connu un grand malheur.
Oui, par l'éditeur de logiciels propriétaires Oracle. Et Oracle n'a pas du tout la même culture d'entreprise. Et eux, les communautés de développeurs de logiciels libres, ça leur plaît pas énormément, faut bien le dire. Et il y a eu un petit peu une scission entre l'entreprise Oracle et la communauté des développeurs OpenOffice.
Alors ouais, on va dire que Oracle ici a un peu le rôle du grand méchant loup. Parce que ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils font du logiciel propriétaire, en particulier, on va pas rentrer dans les détails, mais des bases de données. Et donc, t'achètes très cher ton système, et après, t'as le support, mais c'est vraiment Oracle qui gère tout, et ça passe que par eux. Le malheur, c'est qu'ils se sont dit... enfin, ils avaient l'occasion de racheter Sun, qui était en difficulté financière, et ça leur permettait à la fois de récupérer les produits de Sun, et un plus ou moins de s'éliminer un concurrent, parce qu'il y a certaines choses sur lesquelles ils étaient en concurrence. Et Sun, c'est une entreprise qui s'était pas mal ouverte au monde du libre, qui travaillait beaucoup avec les développeurs, pas forcément de sa propre entreprise, et donc qui était dans les communautés, dans l'ambiance. Et Oracle débarque, rachète tout un tas de trucs de Sun, et donc ça fait qu'il y a plusieurs projets libres. Là, on va se concentrer sur OpenOffice, mais il y a plusieurs projets libres qui sont plus ou moins en difficulté parce qu'on n'est pas sûr que Oracle va continuer à les maintenir dans l'état. Et donc, Oracle rachète LibreOffice. Ils mettent un beau logo rouge et blanc Oracle sur OpenOffice. Ok. Par contre, OpenOffice, je ne sais pas si vous voyez, mais ça fait longtemps qu'on n'a pas eu des nouvelles versions. Ça évolue plus trop en ce moment. C'est pas un mec dans son coin qui s'est dit « je vais créer LibreOffice ». Il y a tout un tas de personnes qui participent, et, y compris des fondations et des entreprises. Alors on va en nommer peut-être pas tous, mais quelques-uns. Alors il y a la FSF, pour nous c'est assez important parce que c'est la Free Software Foundation, la fondation pour le logiciel libre, et donc ça veut dire que il y a vraiment une implication pour respecter les bases du libre, et que ça va pas être uniquement pour faire plaisir à des entreprises. Après il y a effectivement des vraies entreprises comme Google, hein, vous connaissez sûrement, hein, je pense. Des moins connus comme Novell, Red Hat, Canonical, qui font souvent du support Linux.
En tout cas, ce sont des éléments de poids dans le marché des systèmes Linux professionnels. Et ils veillent à ce que le système GNU Linux soit assez compétitif par rapport au système dominant. Donc c'est très important quand même d'avoir une suite bureautique qui tient la route par rapport à Microsoft.
Alors, pour continuer en prenant un peu de recul, j'espère que vous avez compris ce que c'est qu'un fork. En tout cas, le logiciel libre, c'est ça qui est presque le plus important dans le logiciel libre, c'est que on utilise un programme. Ce programme, on ne sait pas forcément ce qui va se passer à l'avenir, mais par contre, il y a toujours le droit de prendre le code sous la dernière version du code sous licence libre et de dire, moi, je fais mon nouveau projet qui récupère ça, et parce que moi j'ai toujours besoin que ce logiciel libre il marche, il soit à jour, il évolue, il soit plus beau, parce que OpenOffice c'est un peu moche et donc si on pouvait l'améliorer graphiquement, ce serait chouette. Et c'est un peu ça l'esprit qui est important derrière le logiciel libre, en fait, c'est de se dire non, ce logiciel il est pas entièrement une entreprise, et l'entreprise peut pas faire n'importe quoi avec. Si elle fait trop de bêtises, il y a des gens qui vont réagir.
Oui, c'est vrai que quand on est un simple utilisateur, on peut se demander qu'est-ce que ça apporte, que le logiciel soit libre et qu'on puisse en voir le code source. Mais en fait, le fait qu'un logiciel soit libre est plus ou moins une garantie de pérennité, puisqu'on sait que ça ne dépend pas uniquement d'un seul acteur. On se dit, si l'entreprise qui est derrière se casse la figure dans 2 ans, ça ne sera pas nécessairement gravissime, puisqu'il y aura peut-être des gens pour le reprendre. Je me souviens par exemple d'un logiciel non libre, mais qui date un peu, c'était le CD-ROM du Louvre. Pour les anciens qui ont vécu l'ancienne informatique des années 90, ouais, c'était un truc super chouette. Sauf que quelques années plus tard, l'éditeur s'est cassé la gueule. Et fatalement, j'ai essayé ensuite de le faire marcher sur Windows XP, puisqu'on avançait un petit peu dans l'histoire. Et en fait, il n'y avait pas moyen de le faire marcher sur Windows XP, parce que fatalement, il n'y a plus d'éditeur, donc c'est un peu fini.
Donc voilà, tu gardes Windows 98, voilà. Et tu fermes ta gueule. Non mais oui, c'est un problème, c'est l'éditeur ferme, il n'y a plus de mise à jour, et ça devient caduque, etc. Voilà. Alors, sur ces bonnes paroles très logicielles, on va se mettre un petit peu de musique, et puis après on reviendra sur du moins logiciel en parlant d'une bonne nouvelle chez Wikipédia.
Premier sur la route du Rhum, loin d'avoir le pied marin, j'ai vu tanguer l'horizon, les sirènes n'étaient pas loin. Je ne veux plus naviguer sur cette mer éthylique, car beaucoup se sont échoués lors de virées bucoliques. Je viens de rentrer au port après cette longue traversée. Ta bouche, tes hanches et tes seins furent le phare qui m'ont guidé. Bacchus, merde. Tu ne l'auras plus, crois-moi. Bacchus, merde. Souvent dans l'abysse, s'éloignant de la surface, la nuit m'enveloppe de ses cuisses. Mon caboteur sur la fange flotta comme bien des glaçons. Ses compagnons d'aventure, anges au milieu des démons, j'ai vu les dieux de l'Olympe, Dionysos et ses amis. Le jeu ne vaut pas la chandelle. Pour moi, la mer, c'est fini. Bacchus, merde. Tu ne l'auras plus, crois-moi. Bacchus, en merde. Tu ne l'auras plus, crois-moi. Bacchus, merde. Maintenant, ça sera sans moi.
Voilà, après ce morceau d'un groupe local qui s'appelle Daoud et Cristobal, dont nous passions un extrait de l'album La Folie des Sages, et plus précisément la piste Bacchus.
On passe même de la chanson française.
Hein. C'est, oh vrai, là c'est vrai, on est super éclectique en ce moment, faut dire, après aussi musique classique. Voilà, donc l'actualité de la semaine dernière.
Champagne.
Champagne, oui, en effet. C'était le million d'articles pour Wikipédia.
Ouais, alors voilà, Wikipédia a passé le million d'articles en français. C'est-à-dire qu'en anglais, il y en a déjà 3 millions. En allemand, Emmanuel disait 1,3 million, donc on arrive troisième. Enfin, c'est pas vraiment une course, mais on est la troisième langue la plus représentée sur Wikipédia. Alors, 1 million d'articles, c'est bien, mais on s'est aussi demandé s'ils étaient variés ou s'il n'y avait que des articles qui parlaient de voilà, moi j'habite Poutouziouk et il y a 3 habitants. Est-ce qu'il n'y a que des articles comme ça sur Wikipédia ou est-ce que c'est varié? Est-ce que ça parle de tout? Et ce qui est assez sympa, c'est qu'ils ont un blog qui s'appelle blog.wikimedia.fr. Wikimedia, c'est la fondation qui gère Wikipédia. Et sur ce blog, on peut voir une sorte de graphique qui montre un peu la répartition par thème.
Oui, et on peut voir assez clairement que la culture populaire et les arts sont assez bien représentés. C'est même ce qui différencie surtout Wikipédia, c'est que on peut voir des albums de musique ou même à ce que certains reprochent des choses sur le cinéma pornographique.
Ah, des trucs cool, quoi.
Ouais, des trucs cool, en effet. Et donc... voilà, c'est surtout la culture populaire qui est pas mal représentée sur Wikipédia, alors qu'elle est complètement ignorée dans les encyclopédies plus classiques, peut-être au détriment de l'histoire et de thèmes très académiques.
Bon, l'histoire a quand même un beau petit, c'est pas des camemberts, mais une bonne petite part dans le truc. Enfin, globalement, c'est pas mal. Limite, c'est les sciences et maths qui sont les moins bien représentées, à ce que je vois comme ça, rapidement. Sinon, ils ont voulu faire les rigolos et ils se sont amusés à représenter la taille de d'autres encyclopédies, donc pas du même genre, pas d'encyclopédie forcément en ligne, mais il y a la Britannica, il y en a deux autres.
L'Universalis, je crois.
Ouais, enfin.
En tout cas, les encyclopédies de référence dans le domaine des encyclopédies traditionnelles, on va dire.
Voilà, alors forcément, les fromages sont beaucoup plus petits. On va dire que une encyclopédie classique, il y a environ 200 000 articles.
Oui.
Donc c'est pas tout à fait, enfin c'est pas pareil.
Et donc justement, si on arrive à avoir des encyclopédies de cette taille, c'est juste que le modèle est complètement différent. Comme vous devez le savoir, Wikipédia est basé exclusivement sur la contribution de personnes bénévoles qui passent un petit peu de leur temps à corriger des articles, à rajouter du contenu, à intégrer les articles avec le reste de l'encyclopédie. À suggérer des améliorations. Et donc, si on en est arrivé là, et si vous pouvez en profiter, c'est que d'autres se sont mis à écrire. Ils ont trouvé sans doute un certain plaisir. Et donc, pour que l'aventure de Wikipédia continue, c'est bien aussi que les gens s'y investissent. Et donc, on encourage chacun. Non seulement à lire Wikipédia, parce que c'est une bonne source d'information, en tout cas relativement bonne par rapport à ce qu'Internet peut nous proposer, et également si vous voyez des choses que vous pouvez améliorer ou simplement des fautes d'orthographe à corriger, sentez-vous libre. Vous pouvez, même à une très modeste échelle, aider à améliorer Wikipédia.
Ouais, voilà, il n'y a pas de... Il n'y a pas besoin de grade ou de diplôme pour participer, c'est aux connaissances de chacun. Et après, ça peut être contrôlé parce que quand il y a une modification, on peut aller la revoir. Bon, on va donner un petit dernier chiffre et puis on va se dire au revoir. Donc juste pour dire, il y a environ 300 à 400 nouveaux articles par jour sur la version française, si je dis pas de bêtises.
Oui, et aussi le nombre de langues.
Ouais, ah oui, bah oui, ça c'est un bon chiffre ça. Il y aurait 272 langues différentes sur Wikipédia, donc les grandes langues anglais, français, les langues un peu moins utilisées, alors il y a des langues africaines, le peul peut-être, il y en a sûrement d'autres. Les langues, on va dire, artificielles, enfin créées comme l'espéranto ou le volapük, je sais pas si on prononce comme ça. Et enfin, la petite
plus
pointe d'humour,
le latin.
Le latin, voilà. Donc, allez contribuer à Wikipédia en latin, c'est important.
Et mine de rien, il y a quand même encore une communauté de latinistes qui ont réussi à écrire 45 000 articles en latin. C'est pas mal.
Voilà, voilà.
Le latin n'est pas si mort que ça, vous voyez.
Ouais. Ok, bon, bah, sur ce, on va vous dire au revoir et à la prochaine fois.